l'histoire sanglante du fascisme. La perversion arienne. Peu après leur ascension au pouvoir, les nazis adoptèrent une politique officielle d'eugénisme. Cette politique avait deux objectifs principaux. Le premier objectif était de faire croître le nombre de la race aryenne et de les élever à la domination mondiale. À la lumière du premier objectif de la politique d'eugénisme, les nazis ont commencé à sélectionner les Allemands qu'ils considéraient être les parfaits représentants de la race aryenne. Ils ont commencé à classifier la race aryenne, objectif pour lequel des études préliminaires ont été menées sur les populations du Pérou et du Tibet à travers le pays. Ils classifièrent et enregistrèrent les gens selon des caractéristiques comme le volume du crâne et la couleur des yeux et des cheveux. Ils cherchaient avec ces mesures à classifier les gens selon la théorie de l'évolution. Les gens qui présentaient les caractéristiques de la race aryenne étaient envoyés à un entraînement spécial et étaient élevés à une classe privilégiée. Des mesures incroyables ont été adoptées à la lumière de cette idéologie nazie déformée. Les membres du SS ont commencé à se marier uniquement avec des femmes bien sélectionnées. Cela avait atteint de telles dimensions qu'en 1933, 2000 demandes de mariage ont été faites en une semaine seulement. Selon les calculs d'Himmler, à ce rythme, toute l'Allemagne deviendrait une pure race aryenne dans les 120 années. Toutefois, l'ampleur du phénomène resté caché sous la surface était autrement plus terrifiante. Un regard sur un article du docteur Willibald Henschel, un théoricien racial nazi dans le magazine raciste Der Hammer, suffit à révéler à quel point cela était terrifiant. Rassemblez un millier de femmes allemandes et isolez-les dans un camp. Mettez-les ensemble avec 100 hommes allemands. Si vous construisez un camp avec ces caractéristiques, vous obtiendrez 100 000 enfants de pure race. En ligne avec cette politique, des femmes vigoureuses, blondes et aux yeux bleus, considérées comme possédant les caractéristiques aryennes, étaient installées dans des camps spéciaux. Les nazis effectuaient des visites régulières à ces camps et y jouissaient des relations avec les femmes. En conséquence, de grands nombres de représentants de la race aryenne ont commencé à apparaître dans les hôpitaux des SS. À mesure que les premières bases de la politique d'eugénisme étaient en train d'être implémentées avec une telle détermination, le deuxième élément a été actionné ailleurs, dans des endroits que personne ne verrait. La politique raciale des nazis a été mise en exhibition à Berlin en mars 1935. Le slogan « Peut-on appeler ça une vie ?» au-dessus des photos de gens handicapés dans un hall spécial annonçait au monde la deuxième base de la politique d'eugénisme. Dans un film de propagande réalisé en 1937, et en ligne avec la logique de l'idée de sélection naturelle de Darwin, l'idée était diffusée que les handicapés de la société devaient être éradiqués. Les faibles créatures de la nature sont inévitablement éliminées. Durant les dernières années, nous avons terriblement empêché les lois de la sélection naturelle de travailler. Non seulement nous avons supporté les formes de vie inférieures, mais nous avons également encouragé leur diffusion. Ceci est ce à quoi ressemble la semence de ces individus malades. D'un autre côté, les personnes en bonne santé vivent dans des cabanes mal construites, dans des rues sombres. De magnifiques palaces ont été construits pour les attardés mentaux et les fous aliénés, mais ces gens étaient incapables d'être conscients de la beauté qui les entourait. Le peuple allemand est largement inconscient des résultats de cette politique de pourriture sociale. Ils sont inconscients du triste état d'esprit dans des endroits pleins de milliers de ces constamment grimaçants imbéciles qui ont besoin de nourriture et de soins et qui sont inférieurs à n'importe quelle autre espèce animale. Notre société a enregistré une croissance de 50% dans les derniers 70 ans, mais le nombre de ces malades génétiques s'était élevé de 450%. Si cela continue, dans 50 ans, il y aurait un attardé sur 4. Des ténèbres sans fin envelopperaient notre nation. Cette malédiction éternelle se répandrait à notre race supérieure et notre race plongerait la tête en premier dans sa propre catastrophe. En conséquence de cette paranoïa, les handicapés mentaux, les infirmes, les aveugles de naissance et ceux avec des maladies génétiquement transmises dans la société allemande étaient rassemblés et envoyés à des centres de stérilisation spéciaux. Ces gens étaient considérés comme des parasites qui nuisaient à la pureté raciale et au progrès évolutionniste de la race allemande. Ils seraient bientôt exterminés. Dans un autre film de propagande, les juifs étaient sélectionnés comme cibles, en les comparant à des rats qui répandaient la maladie à travers la société et qui consommaient constamment ses ressources. Les rats entraînent la destruction en consommant les ressources de la société partout où ils apparaissent. Ils répandent ainsi la maladie, peste, lèpre, typhus, choléra, dysenterie et autres. Ils rôdent astucieusement, craintivement et impitoyablement en grands groupes. Ils représentent un groupe traître et astucieux dans le monde animal. C'est ce que les Juifs sont par rapport aux êtres humains. Initialement, les nazis éliminaient quiconque ils considéraient comme race inférieure dans la société allemande. Ces gens tombaient dans les griffes d'une pauvreté pire que ce qui a été vu par l'histoire humaine jusqu'à aujourd'hui. Chaque jour, de grands nombres parmi eux meurent sur les routes, les rues ou les trottoirs. À l'origine de ces terribles meurtres perpétrés par les nazis était leur idéologie païenne. Pour justifier la culture perverse qu'ils avaient été capables de ressusciter après plusieurs centaines d'années, ils ont trouvé énormément de support dans la théorie raciste de Darwin. L'hostilité nazie envers les juifs était une expression de leur hostilité envers toutes les religions monothéistes. Ils nourrissaient une grande hostilité envers tous les prophètes, le prophète Jésus et la chrétienté, et ils ont clairement démontré cette hostilité partout où ils ont accédé au pouvoir. Les festivals considérés sacrés par les chrétiens avaient été interdits. Mein Kampf de Hitler a été déclaré être un texte sacré au lieu de la Bible, et les serments étaient faits par le soleil et la lumière. L'article 30 des statuts de l'Église allemande, énergiquement imposé par les nazis, déclare « La croix chrétienne sera enlevée de toutes les églises et les cathédrales et remplacée par la svastika, croix gammée, le symbole immortel des Allemands. » En plus de cette mesure, les lieux de culte avaient été détruits, les écoles religieuses fermées et des membres éminents du clergé du pays envoyés au camp de concentration et emprisonnés. La plupart de ces gens ont été tués par des méthodes illégales. Les croyances païennes et la nature barbare des nazis étaient les conséquences inévitables l'une de l'autre. Car les religions païennes contiennent tous les types de dégénération morale. Les valeurs éthiques des religions monothéistes d'un autre côté enseignent une moralité grande et noble. Des comportements tels la cruauté, le massacre et la corruption sont des péchés complètement condamnables et interdits en islam, comme ils le sont dans le judaïsme et le christianisme, les autres religions monothéistes qui furent altérées au fur et à mesure du temps. Dans le Coran, Allah appelle les gens à la justice, la compassion et l'humilité. Il maudit le cruel, l'injuste et l'arrogant. Comme révélé dans la sourate Al-Baqarah, verset 205, Allah n'aime pas le désordre. Machine de la mort. Les nazis ont développé d'effroyables méthodes pour mettre à exécution leurs massacres. Le malade est installé dans un bus spécialement conçu et emmené dans une excursion très spéciale. Les fenêtres étaient noircies pour empêcher quiconque de voir ce qui se passe dedans. Les bus ont été tellement bien conçus que les gaz d'échappement étaient aspirés vers l'intérieur. Ces petits tours dans la ville devaient inévitablement se terminer au cimetière. Les maisons de la mort, connues sous le nom de centres de stérilisation, devaient bientôt être construites dans des endroits tels que Hadamar, Brandenburg, Grafenegg, Hartheim et Sonnenstein. Les nombres incalculables de malades, de femmes, d'enfants et de vieilles personnes répandues dans ces centres étaient soit éliminés par administration d'une injection fatale, soit gazés en petits groupes. Leurs corps étaient brûlés dans les fours de ces centres. Néanmoins, les cheminées constamment fumantes de ces fours avaient permis aux populations avoisinantes de sentir cette terrible vérité. Les familles des victimes recevaient des lettres de condoléances avec des noms de faux médecins et de fausses signatures, mentionnant faussement que la personne concernée était décédée d'une maladie fatale. Peu de temps après, les centres de stérilisation commencèrent à être utilisés pour un objectif encore plus funeste. Les médecins nazis ont commencé à pratiquer d'effroyables expériences sur les malheureux qui étaient envoyés à ces centres. Les nazis, complètement dépourvus des sentiments prescrits par les valeurs morales religieuses telles que l'amour, l'affection, la compassion ou la sympathie, commettaient des barbaries que l'humanité n'avait jamais témoignées jusque-là. Ils utilisaient les gens comme matière expérimentale vivante dans des tests répugnants pour le bien-être de la soi-disant race aryenne. Par exemple, pour déterminer le genre de problèmes auxquels les pilotes allemands peuvent se confronter à de très hautes altitudes et les effets qu'ils peuvent subir en s'éjectant de l'avion avec un parachute, des personnes malades étaient forcées à revêtir l'équipement de vol. On leur attachait ainsi une ceinture de parachute et on les plaçait dans une chambre de pression et on les soumettait à de très basses pressions jusqu'à rupture de leurs organes internes. « Dans une autre expérience, il testait combien de temps un pilote pouvait survivre après atterrissage dans l'océan Arctique. Des personnes malades, en tenue de pilote, étaient plongées dans des bains de glace pour mesurer combien de temps ils pouvaient résister avant de mourir. Les plus terrifiantes de ces expériences inhumaines étaient dirigées par Joseph Mengele, le docteur notoire des camps de concentration d'Auschwitz. Infâme pour ses expériences sur les enfants et particulièrement sur les jumeaux, Mengele a procédé à l'extraction des glandes lymphatiques de 20 enfants dans sa première expérience. On injectait ensuite la tuberculose aux enfants et on observait les résultats. Aucun d'entre eux n'a survécu. Une phase de ces expériences barbares, qui étaient destinées à peupler le monde avec une population à caractéristiques aryennes, concernait la couleur des yeux. Pour cette phase, Mengele a sélectionné des enfants avec des yeux de couleur marron dans sa tour d'Auschwitz. Son objectif était de transformer en bleu la couleur de leurs yeux en leur injectant différents fluides. Toutes les victimes ont souffert de terribles douleurs et étaient définitivement aveuglées. Cela a entraîné certaines victimes jusqu'à la mort. Les cris de victimes innocentes pouvaient être entendus même dans les coins les plus reculés des camps de stérilisation. Par contre, il faut savoir que ces personnes cruelles, ayant commis toutes ces atrocités, recevront le juste châtiment pour ce qu'ils ont fait. Dans un verset du Coran, Allah décrit le sort réservé dans l'au-delà à ceux qui oppriment les autres. Il n'y a de voie de recours que contre ceux qui lèsent les gens et commettent des abus contrairement au droit sur la terre. Ceux-là auront un châtiment douloureux. La Deuxième Guerre mondiale. Le 1er septembre 1939, les armées allemandes envahirent la Pologne. Elles devaient plus tard attaquer l'ensemble du continent européen, l'Union soviétique et l'Afrique du Nord. Il y avait deux objectifs derrière ces invasions: créer des endroits habitables pour les représentants de la race aryenne et éliminer les non-ariens. Hitler voulait effacer toutes les grandes cités de la carte. Il a en fait puisé sa stratégie de guerre de très anciennes cultures. Au temps des tribus barbares, il y avait une règle de guerre très importante. Dès que l'ennemi est vaincu ou son armée défaite, la raison même de son existence devait être éliminée. La seule façon de le faire était de détruire tout ce qui lui appartenait. Tuer et verser du sang était considéré comme un devoir sacré parmi ces tribus qui vivaient dans un état de guerre permanent. Même Rome, considéré comme l'état le plus civilisé du monde païen, était un endroit où des êtres humains étaient déchiquetés par des animaux sauvages et étaient forcés de se battre à mort dans les arènes. Toutefois, un autre état, aux environs de la même époque, a dépassé de loin tout cela dans son application des pratiques barbares. Sparte, laquelle on pense a été fondée aux environs du 8e siècle avant Jésus-Christ, était le premier état fasciste de l'histoire. La vie des enfants forts et en bonne santé était dédiée à l'état, par contre, un autre sort était réservé aux bébés malades, la mort. Les seules chansons qu'on enseignait aux enfants et qu'il était permis de chanter tournaient toutes autour de la guerre et de la violence. Jusqu'à un certain âge, leur seul devoir était de renforcer leur force physique au moyen d'exercices physiques pour devenir forts et apprendre l'art de la guerre. Il y avait seulement un objectif derrière cet entraînement, les transformer en vraies machines à tuer. Des siècles plus tard, l'Allemagne et l'Italie fascistes, inspirées par leur philosophie de violence, devaient laver les jeunes cerveaux exactement de la même manière, produisant ainsi des machines à tuer depuis le plus jeune âge des enfants. Le philosophe grec Platon était un de ceux qui firent les commentaires les plus détaillés sur Sparte. Il était vraiment impressionné par le régime fasciste de Sparte et il le décrit comme étant modèle dans ses livres. Ces régimes oppresseurs reçurent ainsi leur première source d'inspiration. Platon défendait avec sang-froid le meurtre des bébés à Sparte et était le premier partisan théorique du concept d'eugénisme. La pensée tordue de Platon, qui considérait les êtres humains comme un genre d'animal qui était fait pour évoluer en s'accouplant, s'est présentée sur la scène mondiale avec le darwinisme au 19e siècle. Elle a été ensuite traduite dans la réalité par les nazis du 20e siècle. Par le moyen de cette pensée et de ses pratiques, Platon et les Spartiates révélèrent les caractéristiques fondamentales du fascisme, une mentalité qui considère les êtres humains comme une espèce d'animal, un racisme fanatique, l'éloge de la guerre et du conflit. Hitler a établi sa stratégie de guerre par admiration pour les tribus païennes barbares et sur l'esprit fasciste de Sparte en particulier. Cruauté et destruction en masse. Hitler décrit lui-même Sparte comme l'état ayant la race la plus pure de l'histoire. L'ancienne Rome, pense-t-il, était la plus puissante de l'histoire. Si nous pouvons construire une synthèse d'Athènes, Rome et Sparte, notre état durera pour l'éternité. C'est pour ces raisons que la Seconde Guerre mondiale, laquelle les Allemands ont provoquée en occupant la Pologne, était une guerre où les civils innocents en particulier étaient ciblés. Les armées allemandes ont détruit toutes les cités qu'ils ont rencontrées. Ils exterminèrent les Juifs, les Slaves, les Polonais, les Tziganes. Les forces aériennes allemandes n'ont laissé aucune pierre debout dans les cités qu'elles ont bombardées. Le résultat de l'idéologie d'Hitler fut 55 millions de morts. En résumé, le nazisme a infligé au monde guerre et dépravation. Néanmoins, le commandement d'Allah est que c'est la paix qui doit prévaloir dans le monde et non pas la guerre. Ceux qui font du bien et évitent la dépravation sont gratifiés de bonnes nouvelles. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. Benito Mussolini. L'Allemagne n'était pas le premier pays à être englouti par l'idéologie fasciste. Environ au même moment, une philosophie de violence similaire s'est emparée du pouvoir en Italie. L'emblème du parti était l'emblème païen d'un paquet de bâtons attachés autour d'un axe. Le chef du parti était Benito Mussolini. Après la Première Guerre mondiale, l'Italie s'était retrouvée dans une terrible pauvreté. Plus de 600 000 personnes sont mortes à cause de la guerre et un autre demi-million ont été mutilées. La dépression économique et le chômage se sont répandus. Une grande partie de la population était formée de veuves et d'orphelins. La guerre a énormément coûté aux Italiens, mais ils avaient atteint quelques-uns de leurs buts. Comme pour la plupart des peuples épuisés par la guerre, les Italiens étaient avides de victoires glorieuses et des jours de splendeur. Les gloires de l'ancienne Rome étaient rappelées avec beaucoup de nostalgie et le pays réclamait toujours ses droits aux anciens territoires romains. De la même manière que l'Allemagne nazie s'inspirait de la culture païenne du passé, l'Italie également vivait de ses rêves. Profitant de l'opportunité, de la tension sociale et de la recherche d'un système en Italie après la fin de la Première Guerre mondiale, Mussolini a rassemblé autour de lui les anciens soldats, les chômeurs et différents étudiants radicaux de l'université. Mussolini organisa ses partisans en bataillons semi-militaires connus sous le nom de chemises noires. Les chemises noires étaient cruelles et agressives. Ils commencèrent à organiser des attaques de rue contre des groupes qu'ils considéraient leurs rivaux. Avec leurs saluts, leurs chansons, leurs uniformes, leurs slogans et leurs marches officielles de style romain, ils provoquèrent une fureur émotionnelle parmi la population ignorante et désespérée. Le 29 octobre 1922, les fascistes sont entrés à Rome avec 50 000 militants. Réalisant que la résistance face à une telle force était inutile, le roi chargea Mussolini de former un nouveau gouvernement. Peu de temps après, Mussolini s'était débarrassé de tous les partis politiques. Certains chefs d'opposition ont été exilés, d'autres emprisonné. Mussolini était considéré par les fascistes comme un être supérieur choisi avec des capacités et des vocations spéciales. Le service de propagande officiel de Mussolini dictait à la presse quelles photos devaient être publiées, quand, sur quelle page et de quelle taille. Il Duce était dépeint dans des images magnifiques. Comme un puissant commandeur, travaillant à la moisson, s'adressant à de jeunes fascistes ou faisant de la politique. Dans toutes ses publications, Mussolini était décrit comme l'homme s'y connaissant le plus dans tous les domaines. Les pages des journaux étaient pleines de ses photos, le montrant tantôt dans l'avion et tantôt prenant des photos, nageant ou skiant dans les Alpes. Le leader de l'idéologie fasciste était littéralement transformé en idole. En 1935, Mussolini envahit l'Abyssinie sans même déclarer la guerre. Il considéra cette conquête comme nécessaire s'il devait réaliser ses idéaux. Le 2 octobre 1935, des forces italiennes entièrement équipées attaquèrent des points stratégiques dans le pays. L'utilisation du gaz moutarde toxique dans les zones peuplées causa de terribles pertes en vie humaine. La population paisible, sous le règne du roi Haïlé Sélassie, était incapable de résister aux machines de guerre modernes avec leurs armes primitives. Le résultat fut un massacre total. Toutefois, malgré toute sa force militaire, Mussolini a subi la défaite à la Deuxième Guerre mondiale. Mussolini et ses principaux administrateurs ont été pendus. Un autre pays, frappé par le fascisme, était l'Espagne. Supporté par Hitler et Mussolini, les armées du général Franco se sont emparées du pouvoir après une longue et impitoyable guerre contre leurs opposants, les communistes. Francisco Franco instaura un régime encore plus répressif et gouverna le pays avec une main de fer jusqu'en 1975. Il a tué des centaines de milliers de ses propres concitoyens sans faire de distinction entre les vieux, les femmes ou les enfants. Franco a entraîné l'Espagne dans une guerre civile en 1936. Le frère confronta son frère et le père son fils. Une moyenne de 500 personnes mouraient chaque jour durant la guerre civile. La violence, les massacres, la torture en masse et les tueries inhumaines n'ont jamais cessé. La guerre civile en Espagne a laissé quelque 600 000 morts dans son sillage. Hitler et Mussolini ont utilisé l'Espagne juste comme un laboratoire, comme un terrain de test pour leurs armes et leurs troupes. L'exemple le plus frappant de cela était un village que Franco a prêté à Hitler contre son assistance. Un matin du 5 mai 1937, la population de la ville de Guernica a été anéantie par une flotte de bombardiers géants produits par la technologie nazie. La petite ville a été abandonnée par Franco en faveur des nazis pour qu'ils puissent tester leurs avions. les fascistes du tiers-monde. Le fascisme a subi une lourde défaite lors de la Deuxième Guerre mondiale. L'alliance entre l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et le fascisme japonais a été vaincue à la guerre et les régimes fascistes dans les trois pays ont été éliminés. Hitler s'était suicidé. Mussolini a été pendu par ses propres concitoyens et le gouvernement japonais s'était lui-même dissous. Le fascisme s'est développé dans la première moitié du XXe siècle, mais s'est effondré avant d'atteindre la première moitié de celle-ci. Toutefois, cet effondrement ne signifie pas que le fascisme avait été entièrement éradiqué de la surface du globe. Après la Deuxième Guerre mondiale, le fascisme a encore commencé à se développer dans les pays du tiers-monde. Les dictateurs et les juntes qui se sont emparés du pouvoir en Amérique latine et en Afrique avaient en principe la même idéologie fasciste. Le dictateur chilien Pinochet, qui organisa un coup d'État sanglant en 1973 contre le chef de l'État de l'époque Allende, a transformé le pays en un lac de sang. Durant la junte militaire en Argentine, des milliers d'opposants au régime ont disparu. Il émergea plus tard que plus de 2000 prisonniers politiques avaient été chargés dans des avions et jetés à la mer au bord des côtes argentines d'une hauteur de plusieurs milliers de mètres. La sauvagerie vécue au Guatemala était terrifiante. Le régime fasciste, qui en 1954 a renversé le premier et seul président élu, Jacobo Arbenz, transforma le pays en un champ de bataille durant les années 60 et 70. Les régimes fascistes qui s'étaient emparés du pouvoir dans de tels pays de l'Amérique latine, comme le Salvador, le Nicaragua, le Honduras et le Paraguay, ont perpétré de terribles massacres. Des régimes fascistes similaires restèrent au pouvoir plusieurs années dans des pays africains tels que le Zaïre, l'Ouganda et l'Afrique du Sud. Le régime de l'Afrique du Sud avait une idéologie profondément raciste rappelant celle de l'Allemagne nazie. Les Noirs, les habitants natifs du pays, qui représentaient la majorité de ses habitants, ont été exploités pendant des décennies par la minorité blanche au pouvoir. Tous ces exemples montrent quelles terribles conséquences peut produire le pouvoir entre les mains d'individus despotiques. Allah fait référence à de telles personnes dans le Coran. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. Et Allah n'aime pas le désordre. La défaite subie par l'idéologie fasciste durant la Deuxième Guerre mondiale n'a pas, contrairement à ce que l'on croit, totalement détruit cette idéologie. Il est vrai que les représentants les plus éminents du fascisme ont été effacés de la scène, mais le paganisme, le darwinisme, la violence, le racisme et les fondations du fascisme restent toujours. Par conséquent, les partis racistes et les néo-nazis ont encore recommencé à être influents en Europe, particulièrement en Allemagne. Le néo-nazisme et les partis racistes. Un mouvement terrifiant est apparu durant les années 70. La caractéristique principale de ce mouvement skinhead étaient les attaques perpétrées dans la rue par des gangs contre des immigrants étrangers et des pauvres du voisinage. Dans les années qui suivirent, les skinheads se sont tournés vers le racisme et ont commencé des actions racistes comme partisans du nazisme. Les néo-nazis sont au nombre de 70 000 environ et sont actifs dans 33 pays et sur les 6 continents. Ces jeunes gens, âgés entre 13 et 25 ans, ayant la nostalgie du nazisme, se composent généralement de voyous, de drogués et de chômeurs. Ils peuvent être instantanément reconnus par les symboles nazis sur leurs vêtements, leurs têtes rasées et leurs tatouages. Ces tatouages signifient généralement l'hostilité envers les autres races. Ils font les louanges d'Hitler dans leurs slogans, leurs conversations et chansons et prétendent être voués à transformer ses rêves en réalité, un monde gouverné par la race aryenne. D'autres caractéristiques des néo-nazis sont la violence, la haine, l'intimidation, les menaces, la destruction et l'infliction de mal aux autres. Ceux qui infligent le plus grand mal sont considérés comme des héros. Les néo-nazis sont la représentation radicale du mouvement raciste en Europe. On peut les décrire comme la pointe de l'axe fasciste. Toutefois, cet axe a aussi une anse et ces gens représentent un spectre social et politique plus large que les néo-nazis. Les activités des néo-nazis reflètent en fait les attitudes racistes qui se renforcent de plus en plus en Europe. Le fait que beaucoup de gens en Europe sont des racistes cachés, imaginant que leur race est supérieure aux autres, fournit une couverture aux néo-nazis. Selon une recherche menée en 1997, le nombre potentiel des racistes en Europe était estimé à environ 33%. Ce niveau s'est avéré être encore plus élevé en Belgique, en France et en Autriche en particulier. Le pourcentage de ceux qui se décrivent comme complètement ou très racistes est aux alentours de 55% en Belgique, 48% en France et 42% en Autriche. Pour l'Allemagne, cela atteint les 34%. Chaque fois que les organisations fascistes sont mentionnées aujourd'hui, la majorité des gens pensent d'abord aux néo-nazis allemands. Toutefois, la réalité est qu'il y a encore plus d'autres groupes sous la houlette du racisme. Il y a plusieurs groupes fascistes aux États-Unis et en théorie, cela occupe une position plus importante que les néo-nazis allemands. Ces groupes utilisent généralement le slogan de la suprématie blanche. Plus intéressant encore, ils avancent cela plutôt comme une doctrine philosophique et scientifique, et non comme une forme d'hostilité envers les étrangers causée par les problèmes économiques. Différentes organisations fascistes, comme le Ku Klux Klan, le Parti nazi américain, le Mouvement de la Nation aryenne et l'Alliance nationale, se placent tous sous le signe de la suprématie blanche. L'objectif de ces groupes, qui sont très actifs sur Internet, et de propager la doctrine d'une vue raciste du monde et de la diffuser aussi largement que possible. Le racisme fasciste, né de la renaissance de la culture païenne durant le 19e siècle et de la théorie de l'évolution de Darwin, est toujours en augmentation durant le 21e siècle et est basé exactement sur les mêmes fondations. Comme nous l'avons clairement vu au cours de ce film, le fascisme est une idéologie qui a provoqué le plus de destruction dans l'histoire. Il a mené à la mort et à la torture de millions de personnes simplement à cause de leur race. Il a aussi mené à la Deuxième Guerre mondiale. Partout où il apparut, il chercha à éliminer toutes les valeurs en créant une société de la peur. Aujourd'hui, il se manifeste comme un régime étendu en particulier en Amérique latine, en Afrique et dans le monde occidental, avec des organisations croissantes à tendance raciste et néo-nazie. La culture fasciste est également en train de se répandre dans les rues dans plusieurs autres pays et produit des groupes barbares qui se délectent dans la violence et l'effusion de sang. Une lutte intellectuelle mondiale contre le fascisme est par conséquent essentielle. Si le fascisme devait être éliminé, alors le paganisme, ainsi que les mythes, comme le concept darwiniste du conflit et le racisme darwiniste, doivent d'abord être vaincus dans la sphère intellectuelle. Pour que cela arrive, il faut enseigner aux gens les concepts moraux de base comme l'amour, l'affection, la compassion, la modestie, la tolérance, la justice, et ces concepts doivent être largement diffusés. La source de tous ces concepts est le Coran. Tandis que le fascisme incite à la guerre, la violence, aux effusions de sang et au racisme, les valeurs morales du Coran, commandées par Allah, représentent la fondation d'un monde plein de paix et de sécurité. Une société moulée dans ses valeurs morales ne permettra jamais l'émergence du fascisme ni son équivalent rouge, le communisme. La Turquie en est un excellent modèle. Tous les efforts d'exportation des idéologies fascistes et communistes en Turquie ont fini en échec et le pays a totalement gardé ses distances face à ces deux idéologies totalitaristes. La raison la plus importante à cela sont les valeurs morales fondamentales inculquées en Turquie par l'islam. En fait, la Turquie, comme représentante de ces valeurs et comme héritière de l'Empire ottoman, peut représenter un modèle qui peut arrêter la progression du fascisme à travers le monde. Le rétablissement de la paix et de la sécurité, comme l'avaient fait une fois les Ottomans dans plusieurs régions du monde, souffrant de la violence fasciste, peut seulement être atteint dans un pays qui croit en des valeurs religieuses et qui établit une politique qui s'en inspire. Nous souhaitons que cela arrive et que les leaders référencés par Allah dans le verset suivant élimineront le mal du fascisme une fois pour toutes dans le 21e siècle. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Si seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens vertueux qui interdisent la corruption sur terre. Hélas, il n'y en avait qu'un petit nombre que nous sauvâmes, alors que les injustes persistaient dans le luxe exagéré dans lequel ils vivaient et ils étaient des criminels.